Le 18-20 commence avec le premier journal de la soirée. Premier tour complet de l'actualité grâce à Hélène Roussel. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
L'essentiel de ce lundi 8 juin commence avec un geste désormais interdit.
La méthode de l'étranglement, interdit d'appuyer sur la nuque ou sur le cou en cas d'interpellation. La déontologie des forces de l'ordre, selon Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, durcit le ton vu le contexte et lance une réforme de l'inspection de la police, des polices, l'IGPN. Les manifestations contre les violences policières qui se poursuivent à Nantes cet après-midi par exemple, 2500 personnes, la foule, un genou à terre, pas de gaz lacrymogène, pas de policiers non plus à l'horizon, rassemblement dans le calme. Dans l'actualité ce soir encore, le plan de l'État dévoilé demain pour l'aéronautique, 10 milliards d'euros, une histoire de fausse adoption d'enfants au Mali, autant de vies volées basées sur le mensonge, on vous raconte tout ça dans le journal, les océans et le plancton qui va mal, et puis le livre inter et l'éditeur qui va bien.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir ça vous intéresse si vous avez des billets d'avion, des projets hors des frontières. On passe une frontière et pas l'autre, justement. On rentre dans un pays, on n'en ressort plus que plus difficilement. On quitte l'espace Schengen ou pas. Bref, chacun fait un peu comme il le sent, comment son état sanitaire le sent, comment son économie de tourisme le sent surtout. Avec l'Europe qui a beaucoup de mal à coordonner les ouvertures, on essaiera de faire le tour. 19h20, le téléphone sonne. Alors, est-ce que c'est la fin du virus? Avec des points d'interrogation, bien sûr. Les chiffres sont très encourageants. On sait gérer les clusters. Faut-il céder à un optimisme collectif? Est-ce qu'on peut vraiment dire que le virus ne circule plus, déconfiné plus vite, du coup, les écoles, les cinés, les EHPAD, les restaurants? Est-ce que c'est vraiment une épidémie que l'on gère désormais ou un risque latent en matière de gestion? C'est pas pareil. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Tolérance zéro, donc, contre le racisme, certaines méthodes d'interpellation abandonnées et réforme des inspections.
Entre les manifestations contre les violences policières qui se multiplient et les plaintes pour racisme, un deuxième groupe Facebook où 9000 policiers s'échangent des propos racistes dévoilés aujourd'hui par StreetPass, SOS Racisme porte plainte, et bien le gouvernement contraint de réagir. Des propositions pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre, demande Emmanuel Macron. Exécution, Christophe Castaner, conférence de presse cet après-midi.
Ce qui différencie le recours légitime à la force de la violence hors de tout cadre, c'est le respect des règles claires, c'est l'exemplarité, c'est la déontologie. Après le décès de Cédric Chouviat, lors de son interpellation, j'avais rencontré sa famille et je leur avais annoncé la création d'une mission conjointe entre police et gendarmerie pour passer en revue nos méthodes d'interpellation et leurs risques, pour qu'un tel drame ne puisse plus survenir. La police française, ce n'est pas la police américaine. Mais des questions légitimes se posaient. Après plusieurs mois de travail, la mission a pu me rendre ses conclusions. Et j'ai décidé de prendre des mesures, car personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou.
Cédric Chouviat, que cite le ministre de l'Intérieur, était un livreur à scooter mort dans une interpellation à Paris en janvier dernier. Sa famille dénonce une bavure policière. Christophe Castaner avec Ariane Grissel. Alors, est-ce une prise de conscience? En tout cas, ce qu'on peut retenir encore des annonces, place Beauvau, c'est la suspension systématique du policier envisagé s'il y a soupçon de racisme. Le numéro de matricule porté, visiblement, le renforcement de l'usage des caméras piétons et puis surtout cette réforme donc des inspections pour plus d'indépendance, une réforme de l'IGPN, de la police, des polices donc à l'horizon. Christophe Castaner est aussi revenu sur une affaire, celle de Gabrielle, cette adolescente de 14 ans, opérée avec 30 jours d'ITT à la suite d'une interpellation le 25 mai dernier à Bondy en Seine-Saint-Denis. « Je suis moi-même troublée », a dit le ministre de l'Intérieur. « La lumière sera faite », a-t-il encore promis. Le ton a visiblement changé. Il faut dire que le souffle venu au départ des États-Unis ne retombe pas. Une semaine après les 20 000 personnes rassemblées à Paris pour Adama Traoré, les manifestations se poursuivent. Comme ici, cet après-midi à Nantes, plusieurs milliers de jeunes rassemblés autour du mémorial de l'abolition de l'esclavage. Très calme, pendant 2 heures, pas de gaz lacrymogène, pas un seul policier. Un rassemblement Béatrice Duguay dans la dignité.
Genoux à terre, poings levés, minute de silence impressionnante de ferveur. Place Royale.
C'est un genou à terre que George Floyd a été assassiné. Le genou qu'on vient de poser lui rend hommage. Et pour ce moment et l'importance qu'il représente dans cette ville. Oh On va continuer de manifester.
Point d'orgue d'un cortège tranquille et digne, si jeune, mélangé et mixte.
Et c'est magnifique que c'est mixte comme ça. Quand on voit qu'en 2020, il y a encore du racisme aujourd'hui,
c'est comme si on avait eu toutes ces guerres, tous ces traités, qu'on avait tout mis en place pour refaire les mêmes erreurs.
On régresse.
Cortège que Nita et Cécile ont du mal à quitter. Quatre autres jeunes femmes étudiantes sont à l'origine de cette manifestation au slogan claqué sur des pancartes en carton.
Mon seul crime, être noir. Le tien, être raciste.
La vie des noirs compte.
No justice, no peace. Et stop killing us, qui veut dire arrêtez de nous tuer.
Du haut de ses 21 ans, Andy mesure la mobilisation avec lucidité.
Ce qui me plaît, c'est qu'il y ait des gens de toutes les origines. C'est qu'on soit mobilisés et qu'on ait tous plus ou moins le même discours. Ce qui me déplaît par contre, c'est de voir que la mobilisation elle est massivement jeune. Si nous aujourd'hui en tant que jeunes, on doit venir manifester et que nos aînés ne nous suivent pas, comment voulons-nous changer les choses alors que c'est nos aînés qui sont au pouvoir actuellement?
Les manifestants ont promis de se retrouver bientôt, sans date fixée pour l'instant.
Reportage de Béatrice Duguay à Nantes. La police va-t-elle changer aussi aux États-Unis? Deux semaines après le meurtre de George Floyd, Minneapolis démantèle sa police. Et les démocrates présentent un plan aujourd'hui au Congrès américain avec cette image, tous ces élus, le genou à terre. Avant de dévoiler leur réforme contre les violences policières et les discriminations raciales, ils veulent notamment l'abandon de certaines pratiques, comme le profilage racial, ou encore l'abolition d'une règle appelée immunité qualifiée qui protège la police. George Floyd et ses obsèques. Demain à Houston, Texas, Joe Biden, le candidat démocrate, est sur place. Il doit rencontrer la famille aujourd'hui. Et puis Derek Chauvin, le policier inculpé pour meurtre, comparaît aujourd'hui. Nous irons aux États-Unis dans le journal de 19h.
Les conséquences économiques du Covid et la facture qui s'alourdit chaque jour un peu plus.
Le géant pétrolier britannique BP annonce 10 000 suppressions d'emplois dans le monde, 15% de ses effectifs. Pour éviter le pire en France, l'État met des perfusions à tous les étages. Un plan automobile, un autre pour le tourisme, un pour les start-up, encore un pour l'embauche des jeunes. Et demain, c'est l'aéronautique, l'un des rares secteurs industriels où la France excelle. Près de 200 000 salariés, dont près de 50 000 chez Airbus. Et avec l'arrêt du trafic aérien, la filière a été comme fauchée en plein envol. Les commandes ont cessé, les livraisons ont fondu. Fabien Cazot, le gouvernement doit dévoiler un plan massif demain de 10 milliards d'euros.
Principale annonce attendue, la création d'un fonds d'investissement abondé par l'État et des investisseurs privés dont les quatre poids lourds du secteur, Airbus, Safran, Thales et Dassault. Le fonds vise à soutenir les sous-traitants de l'aéronautique civile et militaire en entrant au capital de certaines entreprises les plus fragilisées qui pourraient susciter l'intérêt d'investisseurs étrangers. Double objectif donc de sauvegarde des emplois et de défense de la souveraineté nationale. L'État devrait également mettre la main à la poche en musclant ses commandes publiques. Un programme de soutien à l'export devrait également être mis sur pied. Au total, l'ampleur du plan sera d'une dizaine de milliards d'euros, incluant, comme dans l'automobile ou dans d'autres secteurs en crise, des prêts garantis par l'État pour que les entreprises les plus en difficulté puissent continuer à financer leur activité et surtout à ne pas licencier. Le secteur est un de ceux qui bénéficient d'ores et déjà le plus du dispositif de chômage partiel.
Fabien Cazot, le gouvernement qui passe à la vitesse supérieure aussi contre la fraude au chômage partiel. Plus de 50 000 contrôles d'ici la fin de l'été, annonce la ministre du Travail. Et la fraude qui pourrait aller au-delà des 5 milliards d'euros selon la CFE-CGC. Faut-il accélérer le rythme du déconfinement? C'est non, répond le ministre de la Santé, Olivier Véran, en visite à Argenteuil. La situation s'améliore, mais il faut avancer prudemment. On en parlera aussi dans le téléphone sonne ce soir avec vous, Fabienne Synthèse.
Absolument. Est-ce que le virus disparaît? Est-ce que l'épidémie disparaît? Deux choses un peu différentes au 01 45 24 7000.
Le déconfinement à l'étranger avec la Russie qui rouvre partiellement ses frontières, Moscou qui allège les restrictions à l'autre bout du globe. New York déconfine aussi à petits pas, première phase de réouverture aujourd'hui. Et en bref, encore ces chiffres alarmants de la Banque mondiale, plus de 100 millions de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté.
Un parfum de scandale maintenant, Hélène. 9 Français d'origine malienne portent plainte contre un organisme d'adoption.
Ils sont nés au Mali il y a une trentaine d'années et aujourd'hui ils accusent l'association Le Rayon de Soleil d'avoir menti sur tous les tableaux. Pour convaincre les parents biologiques, l'organisme parlait d'une adoption temporaire, assurait que l'enfant reviendrait vivre plus tard au Mali. Les enfants ont grandi, aucun n'est retourné vivre au pays et pour cause. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
C'est un tout autre discours que l'association tenait aux parents français.
Oui, parce que l'adoption était présentée comme définitive, à aucun moment n'était mentionné un éventuel retour au Mali, mais les enfants avaient des souvenirs. Et devenus adultes, ils ont voulu en savoir davantage. Maître Joseph Bréham, un de leurs avocats, membre de l'Alliance des avocats, cas pour les droits de l'homme.
Ces enfants maliens avaient pour les uns le souvenir d'un frère, d'une sœur. On leur disait qu'ils n'avaient jamais eu de frère, qu'ils n'avaient jamais eu de sœur. Et donc ils ont demandé à Rayon de Soleil de l'Enfant, en général aux alentours de 18 ans, à avoir accès à leurs dossiers. Et Rayon de Soleil a expliqué que les dossiers étaient perdus, inexistants, etc., etc.
Alors certains d'entre eux sont allés au Mali à la recherche de leur histoire. Ils se sont rendus compte d'une autre réalité, fratrie, car il y avait bien des frères et sœurs éclatés. Parfois le consentement des parents biologiques n'existait tout simplement pas, voire faux actes de naissance.
C'est à minima un vol d'identité, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le même prénom, ils n'ont plus le même nom. On leur a enlevé pour certains leur date de naissance, leur lieu de naissance. Comment est-ce que vous voulez que des gosses puissent se construire à peu près sereinement, expliquer à leurs propres enfants quelles sont leurs origines, d'où ils viennent, comment ils se construisent, s'ils ne savent rien de tout ça. La seule chose qu'on leur a laissée, c'est leur couleur de peau.
Un mensonge qui affecte aussi les parents adoptifs. La mission pour l'adoption internationale, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, est également mise en cause, selon la plainte, en ayant toléré, voire facilité, ces agissements.
Daniel Messager, une plainte a donc été déposée aujourd'hui pour escroquerie et abus de confiance. Et ce n'est pas un cas isolé, craint l'un des avocats. D'autres pays, d'autres associations sont probablement concernées. Journée mondiale des océans aujourd'hui et zoom sur l'impact du réchauffement climatique sur le plancton. Selon des chercheurs de l'université de Plymouth en Grande-Bretagne, les étés plus chauds et plus secs dans l'Atlantique Nord ont diminué l'apport de fer et de nutriments. Résultat, le garde-manger est moins fourni et ça entraîne évidemment toute une cascade de réactions sur les poissons, les mammifères ou les oiseaux. Sophie Bécherel.
En 60 ans, les eaux de surface qui constituent le garde-manger des poissons, des mammifères marins ou des oiseaux marins s'est très largement amoindrie dans l'Atlantique Nord. À cause de l'augmentation des températures, la composition des eaux océaniques est perturbée, moins riche en fer et en éléments nutritifs. Sur 60 ans, le bon plancton a perdu 50% de ses stocks, estiment ces chercheurs. Ce bon plancton, ce sont de petits crustacés qu'on appelle les copépodes, mais aussi des diatomées ou des dinoflagellés. Résultat, il manque pour les animaux qui s'en nourrissent, explique l'océan. Eric Carcenti.
Il y a un certain nombre d'organismes planctoniques qui ont migré vers le nord et dans nos régions, ceux qui sont présents maintenant sont en moins grande quantité et plus petits, sont moins gras, quoi. Ils sont de moins bonne qualité pour la nourriture du poisson. Il y a moins d'oméga 3 par exemple et des choses comme ça.
Les chercheurs ont remarqué un déséquilibre dans la population planctonique, une espèce se met à dominer.
Dans ce cas-là, c'est une bactérie très connue des océanographes qui s'appelle Cinecococcus et cette bactérie se développe trop, et pour simplifier, disons, elle prend la place d'autres organismes plus gros qui sont la source de nourriture des copépodes, justement. Quand une espèce domine, ça déséquilibre tout le reste de l'écosystème.
Selon ces chercheurs, au-delà des perturbations sur la chaîne alimentaire, ces changements pourraient modifier la capacité des mers à stocker du carbone. Or, la moitié de l'oxygène que nous respirons est aujourd'hui produit par l'océan.
Sophie Bécherel, allez, ça ne vous aura pas échappé. Le prix du Livre Inter, avec son jury d'auditeurs, est donc attribué à Anne Pauly, un premier roman publié aux éditions Verdier, Avant que j'oublie, sur la mort du père, un père hors norme, et c'est toute la magie de ce livre. C'est à la fois cocasse, trash et tendre. Ce qui est sûr, bonsoir Eva Bétan.
Bonsoir.
C'est que les éditeurs s'y retrouvent. Le prix du Livre Inter, c'est un label, une valeur sûre. La preuve, les éditions Verdier ont déjà lancé la réimpression et en grande quantité en plus.
Alors, le livre était sorti à la rentrée de septembre. Donc, sa carrière est terminée. 14 000 exemplaires, c'est déjà très bien. Le retirage va être de 35 000 exemplaires, ce qui est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est une deuxième vie pour le livre. Dès que les 10 éditeurs des livres en compétition, dès qu'ils savent que les livres sont en compétition, précommandent du papier, au cas où, pour pouvoir faire tirer. Mais parce que c'est comme ça que ça se passe. Le tirage, l'impression a lieu en ce moment, ce sera en librairie dès demain et après-demain. C'est-à-dire que les libraires disent à l'avance, le prix du Livre Inter, apportez-moi 20 000. Il y a les premiers 20 000 qui vont venir, puis le reste qui viendra. Et il y aura peut-être des retirages après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix fait vendre, mais c'est pas juste une donnée comptable. Ça veut dire que les librairies croient parce que les lecteurs sont là. Donc c'est une sorte de chaîne vertueuse qui fait que ce prix donne envie. Et en plus, il se vend pendant très longtemps. Je vais vous donner des chiffres. D'habitude, moi, je préfère les lettres aux chiffres, mais je vais vous donner quand même les chiffres. Sur les dernières années, si vous voulez, le taux multiplicateur, c'est entre 3 et 5. Par exemple, Arcadie d'Emmanuel Bayam-Aktam l'an dernier est passé de 15 000 à 55 000 exemplaires. Sur les 4 dernières années, c'est à peu près cet ordre de grandeur, autour de 60 000. Mais en 2014 et en 2015, Faillir être flingué de Céline Millard, 80 000 exemplaires. 2015, Jacob Jacob de Valérie
Zenati, 83 000 exemplaires, ce qui dans le marché de l'édition aujourd'hui est colossal.
Eva,
on lui souhaite ça,
et on lui souhaite
ces chiffres.
Exactement, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à Anne Poli, avant que j'oublie, aux éditions Verdier, prix du livre inter 2020.
Eh bien, merci beaucoup, excellent choix. Hélène
Rousse. Et le beau bandeau rouge.
Et le beau bandeau rouge, absolument, qui viendra en même temps que ces fameux exemplaires dont vous parliez en plus, Eva. Merci beaucoup Hélène, on se retrouve évidemment demain. Nous, dans un instant, on va essayer de tracer un trait sur une carte, celle des frontières qui sont ouvertes ou fermées, après le Covid, et vous allez voir que c'est pas une mince affaire. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Est-ce qu'on pose la question, est-ce que l'épidémie est finie? Alors, point d'interrogation quand même, mais est-ce que le virus ne circule plus? Les scientifiques de plus en plus le disent, les chiffres ne viennent pas les contredire. Restons vigilants, bien sûr, mais avons-nous enfin droit à l'optimisme? Faudrait-il accélérer les déconfinements engagés? On a entendu que le ministre de la Santé, pour l'instant, n'est pas pour. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, en tout cas au 01 45 24 7000. En attendant, un œil sur le ciel.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et Jean-Pierre Hameau, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Jean-Pierre, l'atmosphère est humide et les températures sont fraîches.
Ben oui, nous retrouvons d'ailleurs des valeurs demain identiques à celles d'aujourd'hui. Les maximales seront 2 à 4 degrés en dessous des normales, avec des valeurs évoluant entre 17 et 20 degrés. N'attendez pas plus de 17 à Besançon, 18 à Brest, Nancy et Dijon, 19 à Lille et Toulouse, 20 à Paris, comptez 21 à 25 près de la Méditerranée. Et puis on retrouvera des températures plus conformes aux normales qu'en toute fin de semaine. Côté ciel, on attend en matinée de belles éclaircies de la Bretagne à la région Poitou-Charentes ainsi qu'autour du golfe du Lion, des nuages et des averses dans les autres régions et déjà des orages dans le sud-est. L'après-midi, prévoyez des orages entre les Pyrénées et le Massif central et jusque vers les frontières du nord-est et de l'est. On attend parfois de fortes précipitations et de la grêle. Partout ailleurs, ce sera un peu plus lumineux sous un ciel variable. Vous profiterez même d'un bon ensoleillement le long des côtes de la Manche par effet de brise.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Hameau, on se retrouve tout à l'heure après 19h.